Session théologique sur le mystère du Christ par le Père Philippe le 24 août 1989 à Saint-Jeudard.
Je continue cette réflexion sur ces grandes affirmations de Jésus qui, d'une certaine manière, se présentent à nous au milieu des luttes et qui nous aide à découvrir les modalités de sa présence. Il se donne à nous comme pain. Et en affirmant « Je suis le pain véritable », il montre le fondement d'une nouvelle présence qui est une identité de vie au plan de l'amour. C'est bien évident que nous gardons notre personne propre, individuelle, mais nous sommes membres du corps mystique. Et l'Eucharistie et l'affirmation « Je suis le pain de vie » réalisent et expriment cette unité substantielle de vie. Cette identité, puisqu'il s'agit d'une idée substantielle. L'unité substantielle, c'est l'identité. Une identité de vie. C'est, je crois, cette affirmation qui, au point de vue de la présence, a quelque chose de tout à fait unique. Elle est quelque chose qui dépasse tout ce qui est dit précédemment. Et c'est pour ça, du reste, que les réactions sont si violentes. Maintenant, l'identité d'amour exprime le don total. Jésus se donne pleinement, entièrement, et de la manière la plus personnelle, la plus individuelle qui soit, à travers ce symbolisme divin de l'aliment. Pensez pour Marie, c'est toujours là où on découvre le mieux comment Marie a reçu et a vécu. Judas refuse. Et Marie, elle, reçoit cette parole avec un tel amour. Et c'est vrai, l'Eucharistie sera en premier lieu pour elle. C'est la reconnaissance de Jésus pour elle. Et l'Eucharistie la conduit à vivre de ce mystère de Jésus qui est pain pour elle, l'aliment divin, à travers son corps, son cœur, à travers toute sa vie, à la fois humaine et divine. Ce don que Jésus fait de lui-même. Jésus fait ce don de lui-même parce que Dieu est le don par excellence dans l'amour. Voyez, ça nous aide à comprendre combien le mystère de la grâce nous met en présence de Dieu qui se donne entièrement. une âme en état de grâce, on verrait la très sainte Trinité. Participation formelle à la nature divine. Le mystère de l'incarnation et de la rédemption est en vue de cela. C'est pour que Jésus nous soit donné comme pain. C'est pour que Jésus nous soit donné comme lumière du monde. Alors ici, c'est déjà, voyez, plus restreint, comprenez bien, plus précis comme don. Le don total, c'est vraiment « je suis le pain de vie ». Parce que c'est le don de l'aliment, à la manière dont l'aliment est donné. Et « je suis le pain de vie » exprime « je suis la lumière du monde » exprime comment Jésus, par la foi, par notre foi, se donne à nous pour être notre lumière. Notre lumière en attente de la vision béatifique. Et le « je suis » montre comment Dieu, puisque c'est le Verbe, nous est donné pour cette recréation, cette reprise radicale de tout. Je crois qu'il faut bien voir ces trois liés entre eux. Il y a une distinction, mais il n'y a pas de séparation. Avec le chapitre 10, Jésus affirme « Je suis la porte, je suis le bon pasteur. » Et au terme, « Je suis le Fils de Dieu. » Alors regardons bien cette affirmation « Je suis la porte ». Qu'on regarde peu, on parle tout le temps de Jésus bon pasteur, et on oublie de fait qu'avant d'affirmer qu'il est le bon pasteur, il affirme qu'il est la porte. Et c'est très important, puisqu'il était dit avant, celui qui n'entre point par la porte dans la bergerie, mais l'escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un brigand. Donc, nous devons passer par la porte pour entrer pleinement dans la bergerie. Et Jésus se dit la porte. Alors, comprenons bien que la porte, lorsqu'il s'agit d'habitation, comme une grotte, c'est l'abri. Quels sont nos deux conditionnements humains? Le vivant doit se nourrir, l'homme a besoin d'un abri. Ce sont les deux manières dont on est le plus conditionné, c'est l'exigence d'un abri, l'exigence de la nourriture. Et Jésus se dit, celui qui vient à nous comme pain et comme porte. C'est par ces deux conditionnements, l'abri et la nourriture, que Jésus manifeste sa plus grande proximité et l'absolu de son don. Puisque c'est par là qu'il transforme notre conditionnement, se sert de ce conditionnement pour se donner plus et nous unir à la fin, nous unir à lui-même, qui est la voie, la vérité, la vie. Et donc, qui est l'épanouissement plénier de notre vie chrétienne. C'est vraiment le mystère de l'agneau, de nouveau. Et alors là, c'est pas affirmé. Il faudrait reprendre dans l'Apocalypse toujours le symbolisme de la porte, qui est si grand, qui est constant. Nous avons beaucoup plus de peine à comprendre. On comprend beaucoup mieux. Je suis le pain de vie. Et je crois qu'il y a quelque chose là que nous devons découvrir, puisqu'on n'a pas laissé tomber une affirmation comme celle-là. C'est vrai, il faut bien le reconnaître, elle n'intervient pas beaucoup habituellement dans notre vie. Je ne sais pas si vous invoquez souvent Jésus comme étant la porte, comme étant celui qui nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. C'est lui qui nous fait entrer dans le paradis, dans le royaume de Dieu. In sinu patris, dans le prologue, le Fils qui est dans le sein du Père. C'est lui qui nous fait entrer, in sinu patris, dans le sein du Père. C'est-à-dire dans la plus grande intimité avec le Père. Et lui seul peut le faire. C'est là où on saisit peut-être le caractère le plus propre de la grâce chrétienne. Vous savez bien ce que dit Denis, que saint Thomas aime tant, qu'il n'est pas un père de l'Église au sens absolu, mais qu'il l'est quand même. Denis dit qu'on doit être très attentif à la manière dont l'Esprit Saint nous révèle ses secrets. Plus il se sert d'un symbolisme grossier, plus il nous révèle ses secrets. C'est très beau, ça, comme principe herméneutique de la parole de Dieu. La porte, je crois que c'est le symbolisme plus grossier, plus que l'aliment, hein, puisque l'aliment exprime l'unité. Et l'aliment, on s'en nourrit. Donc il y a quelque chose de particulièrement grand dans l'aliment. Tandis que la porte, on s'en sert d'une porte pour entrer. On s'en sert pour fermer et nous mettre dans l'intimité du foyer. Jésus se dit porte pour nous montrer la manière dont on se sert de lui pour entrer dans les secrets du Père. Et je crois que c'est ce symbolisme de la porte est particulièrement grossier, qui nous fait comprendre comment il est celui qui nous introduit au plus intime du mystère du Père. Il est vraiment la porte des secrets, celui qui nous révèle les secrets, celui qui nous permet de les recevoir, celui qui nous permet d'en vivre. permet de les discerner. Il y a quelque chose d'ultime dans la porte. On peut voir le parallélisme entre porte et aliment et pain. Et voir que ces deux symbolismes, tous les deux, sont métaphoriques, hein, comme analogie. C'est bien évident. Quand Jésus dit « Je suis la porte », c'est une analogie métaphorique. Donc, il y a un symbole. Et c'est le symbole de l'intime. On frappe à la porte. Vous savez, dans le Cantique des Cantiques, il est exprimé cela. Si on veut entrer dans l'intimité, on n'ouvre pas la porte à tout le monde. Et Jésus nous fait entrer. Il est lui-même la porte. Il est l'accès le plus direct. Et grâce à lui, on a l'accès auprès du Père dans ce qu'il a de plus secret. C'est pour ça que je crois. Nous retrouvons là, voyez, ce que Sainte Thérèse, la grande Sainte Thérèse, disait. Il ne faut jamais quitter l'humanité sainte du Christ. Dans l'oraison. Quitter l'humanité sainte du Christ dans l'oraison, c'est prendre des voies qui sont des déviations, qui nous font perdre du temps. Des voies plus intellectuelles, vous voyez. On croit qu'on arrivera à la déité. Maître Écart, par exemple. Je crois qu'il y a là le réalisme de Sainte Thérèse qui est exprimé par là. C'est le cœur blessé de l'agneau qui est la porte ouverte, toujours ouverte, exprimée pour nous par le cri de soif. Et je crois que nous devons aller jusque-là si nous voulons comprendre cette affirmation de Jésus. La voie d'accès la plus intime, la plus merveilleuse, la plus directe, c'est la blessure du cœur du Christ. L'agneau comme immolé. Et c'est très beau de voir qu'il fallait l'immolation de la blessure du cœur pour que Jésus soit vraiment pour nous porte. Il y a un lien entre les deux. Comme il fallait que les grains soient broyés à la croix, que la chair du Christ soit broyée pour que il soit pain. Il faut la blessure du cœur pour qu'il soit porte. Celui qui nous révèle tous les secrets et qui nous les communique. Alors ce serait, voyez, en dernier lieu, ce qui nous ferait comprendre ce passage si étonnant de l'Apocalypse. Seul l'agneau, comme égorgé, peut ouvrir les seaux. Théologiquement, c'est à travers la blessure de l'agneau, c'est donc à travers le cœur blessé de Jésus que nous sommes prédestinés. Je crois qu'on ne doit jamais l'oublier, cela. Puisque c'est à travers lui qu'on est fils bien-aimé du Père, enfant bien-aimé du Père, qu'on est donc prédestiné. Le mystère de la porte. Je crois que c'est bien cela. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais l'escalade par en dessous, pas au-dessus. On oublie l'humanité sainte du Christ. On oublie l'état victimal du cœur blessé de l'agneau. Et on veut trouver une voie plus intellectuelle, croyant que par là, on entrerait plus dans le mystère du Père. Celui-là est un voleur et un brigand. Celui, au contraire, qui entre par la porte est un berger des brebis. C'est à lui que le portier ouvre et les brebis écoutent sa voix. C'est bien un mystère très secret, très intime. C'est par là qu'on entre dans l'intimité du mystère du Père. Alors évidemment, c'est métaphorique. Vous voyez bien, ce n'est pas du tout un raisonnement de théologie scientifique. C'est le raisonnement, je crois, propre à une analogie métaphorique. Où on essaie de réunir tout le langage symbolique pour voir les liens. C'est descriptif. Mais ça va très loin pour le point de vue pratique de l'oraison, de la prière. Beaucoup plus que le raisonnement scientifique. C'est immédiatement le mystère de l'amour. Il est la porte. Celui qui nous introduit dans les secrets du Père. Et le grand secret du Père, c'est que notre grâce nous prédestine à cette filiation, à découvrir la paternité du Père. Et découvrir la paternité du Père sur nous, à travers Jésus et à travers la blessure du cœur, c'est la grâce ultime de toute notre vie. Le don de sagesse nous fait découvrir que le Père est Père et nous le découvrons par Jésus et par la blessure du cœur du Christ. Et demeurons à ce moment-là in sinu patris. Saint Thomas n'hésite pas de dire que c'est ce qu'il y a de suprême au point de vue de la grâce, d'intimité avec Dieu. De pouvoir dire Abba Pater, de pouvoir dire Père. Donc de vivre de cette paternité. Dans notre oraison, dans notre prière contemplative, il faut que nous revenions toujours là. La blessure du cœur est donnée à Marie, est donnée à Jean, elle est donnée à chacun d'entre nous, pour nous faire comprendre l'absolu de l'amour, le cri de soif. Au-delà de l'œuvre du sacrifice, de la rédemption, il y a la source de cette œuvre. Et la source de cette œuvre, c'est l'amour du cœur du Christ pour le Père et pour nous. Et c'est cet amour infini du cœur du Christ pour le Père et pour nous qui est exprimé par le cri de soif et par la blessure du cœur. Et c'est là où nous découvrons le mystère de la porte. On est introduit au plus intime du royaume de Dieu. On est introduit au plus intime du mystère du Père. C'est là seulement que nous pouvons vivre de l'attraction du Père sur nous. Le Père nous attire. Et nous devons vivre de cette attraction. Vous voyez, l'amour nous fait vivre de l'attraction. Dieu seul est bon. C'est la paternité. dans son cri de soif et dans la blessure de son cœur. C'est peut-être, voyez, parce que justement, c'est un très grand secret qu'on en parle très peu. Et que l'Esprit Saint prend ce symbolisme plus grossier de la porte. Mais une fois qu'on est un peu alerté, on voit bien que c'est très vrai. Ce symbolisme plus grossier cache quelque chose d'ultime. Le cri de soif, la blessure du cœur, l'agneau comme immolé qui enlève les sceaux du livre et donc qui nous révèle le mystère même de la prédestination. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Parce que vous savez que le mystère de la prédestination a été pour Calvin un terrible obstacle, et pour Luther aussi. Alors on doit être attentif à ça. Le mystère de la prédestination, saint Thomas en parle en théologie scientifique. Et c'est rude. D'abord, c'est pas commode à bien saisir, puisque c'est le mystère de l'éternité au-delà de la succession du temps. On risque toujours de chosifier l'éternité et de faire une espèce de dialectique entre l'éternité et le temps, ce qui est tout à fait faux. C'est dans l'éternité que nous regardons le temps au plan théologique. Et le mystère de la prédestination, c'est Dieu qui, dans sa sagesse éternelle, nous choisit éternellement et nous attire à lui. L'éternité de la prédestination, c'est l'attraction du choix du Père sur nous. Comme ça qu'on doit le regarder, l'éternité, le mystère de la prédestination, dans un regard de théologie mystique. Et il n'y a que cela qu'on peut communiquer. Ceux qui n'ont pas compris avec suffisamment de contemplation le mystère de la prédestination se sont choqués en face de ça. Un choc très fort. Et nous, nous devons regarder le mystère de la prédestination dans un regard d'amour et comprendre cette attraction du Père au plus intime de notre âme, transformée par la grâce. La grâce est le fruit de ce regard du Père sur nous. C'est le fruit de son amour. Et cette grâce vous est donnée à travers le cœur blessé de l'agneau et à travers le mystère de la compassion. À ce moment-là, le mystère de la prédestination devient quelque chose de lumineux et de merveilleux. C'est lui qui nous a aimés le premier. C'est ça la prédestination. C'est lui qui nous a aimés le premier. Prior dilexinos. C'est Jésus qui nous a aimés le premier. Et c'est ce choix d'amour sur nous, ce choix d'amour présent, puisqu'il est éternel, actuel, que nous rejoignons. Notre horizon de chaque jour doit être dans cette lumière. Nous naissons à la vie divine à travers cette attraction. C'est notre manière de répondre. Père veut être choisi par nous. Nous sommes des enfants d'adoption. C'est ça que ça veut dire. Nous sommes des enfants, donc on doit choisir. Le Père nous choisit le premier, il veut que nous le choisissions. Et cette prédestination, c'est ce regard amoureux, aimant, de sagesse du Père sur nous, à travers Jésus. Et c'est pour cela que l'agneau, comme immolé, qui enlève les sceaux, ce moment merveilleux de l'Apocalypse, qui est impressionnant. Hein. J'allais dire... L'Esprit Saint a voulu qu'il soit particulièrement pathétique, puisque Jean pleure. C'est la seule fois. Oh, moi, j'en pleurais. J'en pleure parce que personne ne peut enlever les sceaux. Et donc, on est réduit à regarder le mystère de la prédestination de l'extérieur. Il y a de quoi pleurer. Parce que je crois que c'est à cause de cela qu'il y a eu le scandale. C'est vrai, quand on regarde le mystère de la prédestination, point de vue théologique, c'est les relations de la grâce et de la nature, de la grâce et de la personne humaine, pris dans son point le plus profond, premier et dernier. C'est lui qui nous a aimé le premier, c'est lui qui nous a aimé le dernier. Donc, c'est le point le plus chaud des rapports de la grâce et de la nature. Et c'est pour ça qu'on voit dans nos ouvrages. Si l'agneau peut enlever les sceaux, c'est ce qu'on dit à Jean pour l'empêcher de pleurer. Parce que là, Jean pleure pour l'humanité. Ceux qui ont été en présence de ce livre scellé de recto et verso partout, tous ceux qui se sont scandalisés devant ce mystère parce qu'ils l'ont regardé de l'extérieur. Jean cesse de pleurer parce que l'agneau peut enlever. Comme l'agneau nous est donné, nous pouvons regarder le mystère de la prédestination de l'intérieur. Regard mystique dans l'amour et à travers l'amour de Jésus crucifié et à travers le cri de soif et la blessure du cœur. Alors est-ce que le cri de soif et la blessure du cœur, n'est-ce pas l'expression divine de la victoire ultime de l'amour? Encore une fois, c'est, tout ça est en filigrane, mais nous devons essayer de creuser, étant donné l'importance de ce moment et l'importance de cette affirmation « Je suis la porte ». Eh bien, au plan spirituel, donc au point de vue analogie métaphorique, qu'est-ce que c'est que la porte? On enlève les sceaux, on pénètre dans le secret, on vit du secret. Alors, c'est quelque chose de tout à fait intime qui nous est donné par Jésus. Le secret intime du Père sur nous. nous est donné par Jésus. C'est pour ça que dès qu'on écarte l'humanité sainte du Christ, le petit livre reste scellé. Et on ne peut le regarder que de l'extérieur. Alors c'est la panique, c'est les pleurs, même de gens. C'est la justice. Si on le regarde de l'intérieur, on entre dans ce primat de l'amour. Important pour nous. Voyez, qu'est-ce qui fait le lien entre l'Orient et l'Occident? Puisque nous devons toujours avoir le souci de rejoindre nos frères orthodoxes. Qu'est-ce qui fait ce lien? Eh bien, c'est le mystère de la paix. Était dit. Un jour, elle passait à Rimont. C'était le soir de l'Assomption. Et la Vierge Marie, qui elle aussi fait l'unité, mais c'est pas. Il faut dépasser. Il faut découvrir la paternité. Il ne faut pas s'arrêter à la maternité. C'est la maternité. Marie qui fait découvrir cette paternité et qui nous fait découvrir alors le lien profond que toute âme orthodoxe saisit tout de suite. Nous, nous avons plus de peine parce que de fait, on ne découvre pas tout de suite le point de vue de la paternité. Donc, je suis la porte. Je suis le bon pasteur. Si la porte, c'est l'état victimal de Jésus, à l'état le plus pur, à l'état ultime, je suis le bon pasteur, c'est le mystère du sacerdoce. Les deux se tiennent dans la réalité, mais dans un langage symbolique, les deux se distinguent. C'est ça qui est merveilleux dans le langage symbolique. Le langage symbolique, mais, j'allais dire, d'une manière extrêmement forte, les fonctions. Le Christ est victime, le Christ est prêtre. Et le sacerdoce du Christ implique l'unité entre le prêtre et la victime. Et c'est ce qui fait le caractère tout à fait particulier du sacerdoce du Christ. C'est le sacerdoce du Fils bien-aimé. C'est un sacerdoce d'amour. Et parce que c'est un sacerdoce d'amour, l'exercice du sacerdoce réclame que le prêtre et la victime ne soient qu'un. Le sacerdoce du Christ est lié substantiellement à son état victimal. Mais autre chose est d'être victime, autre chose est d'être prêtre. Il faut bien saisir ça, l'état victimal du Christ. Il offre librement sa vie. C'est là on saisit l'état victimal. Et quand on voit le point de vue de la blessure du cœur, j'ai plus vivant. C'est parce qu'il n'est plus vivant qu'il a reçu le coup de lance. Il ne faut pas l'oublier. C'est dit dans Saint Jean d'une manière suffisamment explicite. S'il a été vivant, on aurait rompu ses jambes. C'était ça qui avait été commandé aux soldats. C'est parce qu'il était déjà mort. Il y a eu le coup de lance qui n'était pas commandé, qui a été donné par surabondance. J'allais dire sans intention particulière du côté des hommes. Du côté des hommes, c'est donné par hasard. Et ce coup de lance donné après la mort de Jésus, il est pour Marie, sacerdoce royal de la femme, qui offre ce qu'il y a d'ultime à l'état victimal du Christ. C'est aussi très important de saisir cela, puisque le Concile nous demande d'aller jusqu'au bout de la distinction du sacerdoce ministériel et du sacerdoce royal de la femme. Jésus a communiqué en premier lieu son sacerdoce d'une manière ministérielle à la scène. Et ensuite, il demande à Marie d'offrir cet état victimal de son cœur, la blessure du cœur. Et c'est Marie qui l'offre en surabondance. C'était pas nécessaire. Là, vous voyez, on touche l'ordre voulu par Jésus entre le sacerdoce ministériel et le sacerdoce royal. Le sacerdoce royal de la femme, le sacerdoce mystique, le sacerdoce commun, peu importe les termes, on n'en a pas. Alors on ne sait pas comment exprimer ça. Mais nous devons le regarder aujourd'hui. Et nous devons être très attentifs à cet ordre de sagesse divine. Marie est liée d'une manière très particulière à la blessure du cœur. Un petit signe, c'est qu'un signe, mais la théologie mystique se sert des signes. La théologie scientifique, non. La théologie scientifique, la théologie mystique, oui. Vous savez, toutes les études qui ont été faites sur le linceul de Turin, lieu de litige aujourd'hui. Alors, il y a diverses analyses. Je n'entre pas dans la querelle. Mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé, qui m'a beaucoup étonné. C'est cette analyse de ce médecin qui avait ça avec une telle attention, avec beaucoup d'amour, ça se voit. Il a mis toute sa science au service de cet amour. Et quand il dit, on voit au lieu de la blessure, c'est-à-dire le linceul qui a recouvert la blessure, il dit, on voit comme la pression d'une main, puisque ça a été repris par deux ou trois fois. Un signe que le dernier lieu où Marie touche à travers le linceul, le cœur blessé. On comprend très bien. Pour Marie, la blessure du cœur a dû être le lieu où elle a été divinement, mystiquement la plus unie avec le cadavre de Jésus. Et on comprend très bien ce que ce docteur qui étudie le linceul avec amour veut nous signaler comme le dernier toucher. Touche, le toucher de Marie. Il ne le dit pas, mais c'est dit quand même par rapport au linceul. Encore une fois, ce n'est pas un raisonnement scientifique. C'est simplement un signe qui nous montre le lien de Marie avec le coup de lance. Le mystère victimal de Jésus est lié à Marie d'une manière étonnante. Est lié à la femme, est lié parce que c'est le corps du Christ qui exprime en dernier lieu son amour dans un geste. Et le geste le plus fort qui soit, le geste passif, de celui qui ne vit plus, qui est mort, et qui touche le cœur. Alors c'est le geste par excellence. Et toute la révélation se termine là, par un geste, pas par la parole. La parole du cri de soif est très forte, mais c'est le geste du coup de lance qui est le plus fort. Et alors on comprend que Marie ait compris cela d'une manière unique. Et alors, que ce soit marqué jusqu'au linceul, je trouve ça très merveilleux, comme signe de l'amour de Marie qui ne peut pas quitter le cadavre de Jésus. On sait très bien que c'est toujours la séparation la plus dure pour le cœur d'une mère de quitter le cadavre de son fils bien-aimé. C'est vrai humainement, c'est vrai divinement. La grâce ne supprime pas la nature. Et donc, dans l'ordre de la maternité divine de Marie, c'est peut-être là où on saisit ce qu'il y a d'ultime dans la maternité divine de Marie, au moment où Jésus est lui-même victime d'amour. Voyez, alors, ce serait intéressant d'étudier le lien de cette affirmation de Jésus, « Je suis la porte », et le lien avec le mystère de Marie dans sa compassion. Je suis le bon pasteur, c'est au contraire le mystère du sacerdoce du Christ. Mais vous savez que l'état victimal du Christ va plus loin que le mystère du sacerdoce pris en tant que Jésus joue un rôle de médiateur. Puisque le sacerdoce d'amour s'exprime plus par l'état victimal que par l'action. Une fois de plus, hein, les rapports entre la contemplation et l'action. La contemplation va plus loin que les actions les plus héroïques qui soient, les plus grandes qui soient. C'est pour ça que l'exigence de la contemplation peut réclamer tous les sacrifices. Le sacrifice de la maternité, le sacrifice de l'enseignement, le sacrifice de la communication. Il faut bien comprendre ça. C'est très très important. Je suis le bon pasteur. C'est le grand mystère du sacerdoce du Christ. C'est Jésus qui, comme prêtre, gouverne l'Église. Vous voyez, il ne dit pas à Pierre, Pierre, fais paître mes brebis. Mais qu'a-t-il demandé à Marie ? Dans le silence. Parce que ça ne se passe que dans le silence. Jésus ne peut demander les sacrifices suprêmes que dans le silence. Il les commande jamais. C'est pour ça que c'est si difficile de discerner une vocation contemplative. C'est dans le silence. Une vocation sacerdotale se discerne beaucoup plus facilement. Une vocation purement contemplative, c'est dans le silence. C'est dans la lumière. Je suis la porte. Cet état victimal de Jésus. Je crois si important et que on montre si peu, il faut bien le dire. Et le renouveau de la vie contemplative doit se faire dans cette lumière. Et là, il y a quelque chose d'infiniment grand. Et c'est beau de voir que c'est dans ce chapitre 10 que les deux sont intimement liés. Je suis la porte, je suis le bon pasteur. Il faut demander à la Vierge Marie de nous faire comprendre cela. Le secret que Marie a compris quand elle était debout au pied de la croix, entendant le cri de soif et témoin de la blessure du cœur, recevant le cadavre de Jésus dans ses bras pour l'offrir.